Cathy Bisraor est en ligne avec nous à Jérusalem. Cathy, bonsoir.
Bonsoir, Bernard.
Cathy, on va essayer de faire un point. On va essayer de comprendre un peu mieux avec vous. Les deux objectifs de Benjamin Netanyahou, dit-il, sont l'écrasement du Hamas et le retour des otages. Là, maintenant, on commence à voir que le langage a changé. Déjà, lui-même, pendant les cérémonies du Yom HaTzmaout, a dit « Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. » Souvenez-vous comment ça a été fait. Il a parlé du nain, et après il a dit « Le plus important, c'est le Nitzachon, c'est la victoire. » On a compris que les otages venaient un peu après. Et encore là, dans la vidéo qu'il a publiée dans le courant de la journée, il dit « On va vaincre le Hamas et ça nous aidera aussi pour les otages. » Donc là, déjà, il y a un glissement sémantique qui est nouveau. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous en pensez. Mais alors, le fait du jour, réoccuper Gaza, ça, c'est quoi pour vous, d'ailleurs, réoccuper Gaza? C'est un constat d'échec?
Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire de réoccuper Gaza. D'accord? Parce que réoccuper Gaza, ça a été dit par certains ministres.
On a un son qui n'est pas génial, Cathy.
Est-ce que vous m'entendez mieux, là?
Ouais, là, c'est mieux. Allez, on a tellement envie de vous entendre, en plus.
Est-ce que là, vous m'entendez mieux?
Là, on vous en... Magnifique.
Voilà, super.
D'abord, qu'est-ce que c'est l'objectif Gaza? Dites-nous.
Alors, justement, il faut faire le point sur cette histoire, parce que l'histoire de réoccuper Gaza, qui a été repris en effet par les médias, et surtout par les médias internationaux, ça a été dit par certains ministres. Je n'ai pas vu cette expression-là de réoccuper Gaza dans la décision officielle qui a été publiée hier soir par le Conseil de la sécurité, le Conseil de sécurité qui décide en fait toutes les menées de la guerre. Et je pense que c'est important d'être précis. Qu'est-ce qui a été décidé hier en fait? Et c'est sûr que la décision hier du cabinet de la sécurité est une décision dramatique parce qu'il y a quelque chose de nouveau. D'abord, le grand titre, c'est élargissement des opérations sécuritaires, militaires à l'intérieur de Gaza. C'est ça le titre. Et si vous regardez dans le détail ce qui est écrit, en fait, il y a deux nouveautés. Il y a beaucoup de choses, évidemment, mais il y a deux choses qui sont, à mon avis, cruciales et nouvelles par rapport à ce qui s'est passé dans la menée de la guerre jusqu'à présent. La première chose, et c'est pour ça qu'on a parlé d'occupation de Gaza, c'est que qu'est-ce qui est dit? C'est fini l'histoire de faire des opérations où on envoie des unités d'élite, on élimine tous les tunnels dans un périmètre précis et ensuite on se retire. Cette histoire d'aller et retour, d'entrée et de sortie, ça, c'est fini, dit le cabinet. Maintenant, on va pénétrer, éliminer, nettoyer tous les réseaux terroristes dans un périmètre précis et on ne sort pas. On reste sur place.
Et vous
n'appelez
pas ça réoccuper?
Je vous dis, vous pouvez appeler ce que vous voulez, mais je vous dis que
je rentre, j'écrase tout et je reste.
Je rentre et je reste. C'est pas une occupation. Je rentre et je reste. C'est vrai que c'est théorique, techniquement, je parle techniquement, c'est une occupation du territoire, pas sur le très long terme. Il n'est pas dit que Tsahal va rester là. Et ce qui est écrit, c'est que Tsahal reste jusqu'à ce que le Hamas disparaît de la carte de Gaza, ce qui semble évidemment un but un petit peu lointain, mais c'est ce qui est dit. Maintenant, la deuxième chose, Bernard, et je crois que c'est très important de comprendre, parce que c'est à mon avis, j'ai envie de vous dire que la deuxième décision, c'est peut-être la plus importante. Qu'est-ce que c'est la deuxième décision? Je crois qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais ça c'est confirmé hier par le cabinet, l'histoire de l'aide humanitaire qui est transférée, ce qui était véritablement absurde depuis plusieurs mois, depuis presque le début de la guerre. On rentre de l'aide humanitaire et on la donne dans les mains du Hamas. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu cette aide humanitaire? Ils l'ont pas gentiment donnée aux habitants de Gaza, mais ils l'ont vendue à prix d'or. Ils ont eu de l'argent avec cet argent. Ils ont payé des salaires de terroristes, ils ont enrôlé des personnes, ils ont de nouveau fabriqué des missiles, etc., etc., etc. Et donc ça, cette décision qui était vraiment absurde, qui a duré pendant des mois du gouvernement actuel, ils ont compris que c'était fini, cette histoire, que c'était impossible de continuer. Et désormais, ce qui a été décidé, c'est que l'aide humanitaire sera introduite à Gaza, mais sera relayée jusqu'aux habitants de Gaza par soit Tsahal, okay, soit surtout par ce qui est écrit, en tout cas dans la décision, des entreprises privées en général américaines. Alors évidemment, c'est un petit peu illusoire, hein, ça va pas marcher en quelques heures, cette histoire. À mon avis, ça va prendre certainement des semaines et peut-être des mois, parce que le Hamas, ils vont tout faire évidemment pour déjouer. Mais si vous voulez, si on parle au niveau des décisions décision importante du gouvernement israélien. C'est, à mon avis, ces deux décisions qui sont cruciales, et notamment la deuxième, parce qu'ils ont bien compris que vous avez beau battre et tuer des terroristes, encore des terroristes, encore des terroristes, si vous n'avez pas neutralisé l'argent, si vous n'avez pas neutralisé le pouvoir politique, en fait, vous n'avez rien fait. Et c'est ce qui se passe au bout d'un an et demi, on voit que le Hamas, il est toujours là. Et donc, ça a été les décisions du cabinet. Maintenant, si vous me permettez, Bernard, je mets un bémol sur toute cette histoire, parce que c'est pas demain que ça commence. Le président Trump, comme vous savez, arrive dans la région, pas en Israël, mais dans les Émirats arabes et en Arabie saoudite. Et ce qu'a dit Netanyahou, c'est que tout est prêt et que cela débutera après le président Trump quitte la région. C'est ce qui a été décidé hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même, si vous voulez, le temps que Trump est là, il y aura apparemment de nouveau des tentatives peut-être d'obtenir un accord sur les otages.
Ah bon? Moi, je crois que c'est aussi qu'on ne veut pas gêner Trump qui vient faire des
Trump
affaires avec les Saoudiens.
D'amener les chars israéliens et les canons israéliens quand Trump n'est pas loin de là. C'est exact aussi, mais c'est peut-être la vérité. Mais en tout cas, Netanyahou l'a dit d'une autre manière plus diplomatique, en disant que le temps que Trump est dans la région, il y aura encore des tentatives de dernière chance d'obtenir un accord. C'est ça qui a été dit officiellement par le gouvernement.
Il y a Smotrich qui a dit, et il y a même des ministres du Likoud qui ont dit, cette solution, la nouvelle, ce nouveau plan, ne permettra ni de vaincre le Hamas, ni de libérer les otages. Parce qu'en fait, c'est la même chose, mais en plus grand. Mais c'est toujours pareil. Et effectivement, comme vous l'avez très bien illustré, je veux dire, par exemple, c'est plus Sinoir, c'est le frère de Sinoir. Si c'est plus le frère de Sinoir, ça sera un autre qui est aussi sorti de prison et qui sera légitimé par son mouvement et recruter des gens. On le voit, on s'en désole, mais on paye les gens de toute façon sont déjà hyper politisés, religieux, on peut toujours reconstruire. Et Smotrich dit, vous n'aurez ni la victoire, ni le retour des otages.
C'est bon, j'ai pas entendu Smotrich, il a dit autre chose.
Il a dit,
c'est
une solution qui n'amènera ni la défaite du Hamas, ni le retour des otages.
Mais s'il a dit autre chose, Smotrich, il a dit, pour lui, Smotrich et Ben-Gvir, et ce courant politique, merci, ce courant politique de la droite israélienne, eux, ils disent, il y a un seul moyen, d'accord, le seul moyen, c'est d'occuper la même chose qu'on fait en Judée-Samarie, c'est-à-dire que non seulement on occupe par l'armée, mais on réinstalle les Israéliens, on réinstalle des localités, on réinstalle on reconstruit les localités de Gouch Katif, etc. C'est pour ça qu'il a dit ça à Smotrich. Il a dit, c'est uniquement lorsque Israël sera présent et militairement et surtout civilement, dit-il, à Gaza, sur le modèle de la Judée-Samarie, qu'on s'en sortira de cette histoire. Maintenant, vous savez, Bernard, ce que vous avez dit, c'est vrai, ok, on a tué Sinoir, il y a son frère, on va tuer son frère, il y aura quelqu'un d'autre, etc. Mais si vous vous placez dans une perspective historique presque millénaire, j'ai envie de dire, d'accord ? En fait, si vous voulez, le Hamas, qu'est-ce que c'est ? Ok, ce sont des gens qui ne veulent pas que le peuple juif existe sur la terre d'Israël. C'est pas parce qu'on va en tuer 10 000 et même 20 000 et etc. terroristes que ça va disparaître. C'est quelque chose qui va pas disparaître. Et c'est pour ça que, quelque part, si vous voulez, le combat d'Israël, c'est un combat, j'ai pas envie de dire éternel. Un jour, peut-être, quelque chose arrivera
et
que ça sera
fini. Oui, mais justement, Cathy, tout le monde sait que c'est éternel. Tout le monde pense que c'est éternel. Je crois même que les gens qui manifestent pour la Palestine à Paris, même eux, ils se disent il y aura jamais la paix avec les Juifs. Donc, ok, tout le monde se dit ça. Mais comment on peut vivre avec ça?
La preuve, si vous voulez, que Israël vit avec ça.
Non, Cathy. Je ne vais pas vous apprendre comment vous vivez à Jérusalem, mais non. Parce que là, depuis le 7 octobre, c'est pas comme ça que vous vivez, vous, Cathy, depuis que vous êtes là-bas à Jérusalem. Depuis le 7 octobre, c'est exceptionnel. Comment on va sortir de ça? Par le haut. Déjà, par le haut, ça se trouve, là, vous allez me dire, c'est pas faisable, on va gérer le truc.
Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, Bernard, je veux pas jouer l'optimiste je veux pas jouer le radio sur Radio Shalom, mais je vais vous dire quelque chose, ok? Que ce soit pas facile, c'est clair, d'accord? Dans chaque famille, et j'imagine que nos auditeurs aussi, parce qu'il n'y a pas le peuple d'Israël, le peuple juif, il y a un peuple juif, il y a tellement de liens entre le peuple juif et la diaspora, que c'est la même chose. Il n'y a pas une famille qui n'a pas des soldats, qui ne connaît pas des soldats qui sont tombés, des drames et des blessés, et des choses dramatiques, etc. Chacun autour de nous, c'est sûr que c'est pas facile, d'accord. Mais d'un autre côté, c'est l'histoire du peuple juif. Regardez ce qui s'est passé. C'est l'histoire du peuple juif. Malgré ça, il faut voir qu'est-ce qui se passe en Israël, ok. Il y a, d'un côté, vous vivez, c'est vrai que vous vivez dans une dichotomie incroyable, peut-être, je dirais, psychotique presque, mais c'est la réalité. D'un côté, vous avez des drames. D'un autre côté, vous avez un pays qui continue à vivre. C'est, moi, je vais vous dire, moi-même, ça m'étonne quelque part. Quand je m'arrête, je regarde Israël, je regarde, par exemple, notamment pendant les fêtes de Pessah, où c'était Chol HaMoed, et donc tous les parcs étaient ouverts, et tous les Israéliens sont dehors, les pique-niques, etc., etc. Je vous dis, j'imagine que c'est pas seulement moi qui a eu ce sentiment. Waouh! Il y a des drames autour de nous, il y a une guerre qui n'en finit pas, il y a des otages, il y a de la peine, il y a des souffrances. Et d'un autre côté, il y a la joie et la vie qui continuent, ouais, etc. Et cette dichotomie-là, elle est peut-être terrible, hein, aux yeux de l'étranger, etc. Mais si vous regardez l'histoire du peuple juif, ok, c'est pas très compliqué, on va pas refaire une perspective historique, mais ça a toujours été comme ça. Israël, ça a toujours été comme ça. Ok, je parle maintenant de l'État d'Israël depuis 1948, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des drames, plus ou moins avec des périodes, d'accord. Et d'un autre côté, la vie qui a continué, le pays qui a continué à construire, qui a construire. Et je crois que, si vous voulez, cette dichotomie-là, ok, quelque part, Israël vit avec. Regardez ce qu'on a dit. On n'a pas arrêté d'entendre que les Israéliens vont partir d'Israël, que c'est une catastrophe, que le high-tech va s'écrouler, etc. Regardez ce qui se passe un an et demi après la guerre. Je ne vois pas du tout que le high-tech s'est écroulé. Je ne vois pas du tout que les Israéliens ont quitté Israël. Au contraire, je vois un pays en pleine expansion, les constructions, les scies, etc. Et donc, je crois que malgré, si vous voulez, je joue là le rôle de l'optimiste, malgré véritablement les drames, hein, je crois qu'il ne faut pas du tout minimiser, et l'inquiétude, hein, de l'avenir, une guerre qui continue maintenant et qui va s'amplifier, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus cette perspective historique.
Une dernière question, Cathy. Le même jour, au même moment de la décision donc de préciser qu'on va élargir la guerre, qu'on va avoir plus de réservistes, et d'ailleurs dans la même vidéo publiée cet après-midi par Benjamin Netanyahou, il dit, et d'ailleurs on va pas faire de commission d'enquête. Pourquoi? Parce qu'on a élargi la guerre et donc c'est pas le moment. Mais le problème, Cathy, c'est que non seulement le monde entier, mais l'opposition israélienne lui dit, mais tu vois bien que tu continues la guerre parce que tu veux pas de commission d'enquête. Et lui, il est tellement... Comment vous le jugez? Parce qu'il y a plusieurs choses. Soit il est vraiment les mains dans le cambouis et voilà, il est comme ça, il peut pas s'intéresser à ce qui se dit ailleurs. Bon, ce serait votre avis. Ou bien depuis le début, c'est-à-dire, il n'entend pas l'opposition, il donne même l'impression que ça n'intéresse pas. Comment est-ce que vous vivez ça? C'est quand même... Je sais pas, au moins attend le lendemain, quoi. Non, le jour même.
Là, vous posez plusieurs questions. D'abord, vous parlez à quelqu'un qui pense, comme à mon avis la grande majorité d'Israéliens, que pour l'avenir d'Israël, ok, pour l'avenir des enfants d'Israël, et des enfants qui deviendront soldats dans 10, 15 et 20 ans, ok, et que le 7 octobre ne se répète pas de la même manière qu'il y a eu une commission d'enquête après la guerre de Kippour et après la guerre du Liban et après toutes sortes de drames qu'il y a eu en Israël. C'est sûr, Bernard, qu'à un moment donné, il y aura une commission d'enquête sérieuse, générale,
etc. Et là, il a inventé un truc, on va faire une loi,
mais un truc qui n'existe pas. Maintenant, ceci dit, ça c'est sur l'histoire de la commission d'enquête. Je pense qu'il y a, j'ai pas envie de vous dire, je crois que la grande majorité des Israéliens pensent qu'il doit y avoir quelque chose, une commission d'enquête. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le phénomène Netanyahou, c'est vraiment un phénomène, parce que, si vous voulez, pour le bien et pour le pire, parce que, si vous voulez, la logique aurait été, depuis le 7 octobre, d'accord, que Netanyahou, quelque part, si vous voulez, il était premier ministre.
Il est dehors, vous ne voulez pas finir la phrase. Normalement, Menachem Begin, tout seul, il a dit j'arrête,
et Sharon, il est parti. Et Menachem Begin, tout seul, il a dit je ne peux plus,
j'arrête,
il est parti. Et Ben Gurion et les autres, et Moshe Dayan, etc. Ce n'est pas le cas de Netanyahou. Et si vous voulez, quelque part, d'accord, je crois qu'il faut d'abord regarder au sein du public israélien. Parce que quand vous voyez les sondages, si quelqu'un de l'extérieur regarde les sondages israéliens, vous avez quand même du mal à comprendre que le Likoud, ok, dans toutes les constellations, tout ça, pas, si vous voulez, pas la coalition avec les Haredim, etc., mais le Likoud en tant que parti, si vous voulez, il continue à être le parti numéro un. Vous dites, comment c'est possible? C'est un phénomène qui, à mon avis, l'histoire devrait expliquer. Si vous voulez, d'un côté, Netanyahou, c'est un des hommes les plus haïs, je crois, de l'histoire politique israélienne. Et d'un autre côté, ok, vous voyez un phénomène. C'est quand même, si vous voyez historiquement, ok, c'est quelqu'un qui continue à diriger le pays. De main de fer. Ok, on peut pas dire autre chose. C'est-à-dire que, regardez, avec tout ce qu'il y a eu contre Netanyahou, les enquêtes, son propre procès, maintenant l'histoire du Qatar, et des histoires sans fin, sans compter les histoires contre sa famille, etc., tout ça, vous continuez à voir un Premier ministre qui dirige le pays, et je crois que l'histoire expliquera le phénomène. Moi, je peux pas vous l'expliquer aujourd'hui. Je crois que l'histoire expliquera le phénomène. Mais le fait est, si vous voulez, et Netanyahou, il faut dire la vérité, a eu beaucoup, beaucoup de chance qu'il a face à lui Donald Trump, pour l'instant, en tout cas. Le duo fonctionne. Je sais pas combien de temps, mais pour l'instant, le duo fonctionne. Et si vous voulez, ce duo avec Donald Trump, ok, a énormément renforcé, si vous voulez, non seulement le pouvoir, la gouvernance de Netanyahou, mais quelque part également son aura auprès du public israélien. Ça ne veut pas dire que, comme je viens de vous dire, c'est un des personnages politiques les plus haïs de l'histoire d'Israël, c'est clair. De l'autre côté, il y a aussi l'autre côté d'Israël qui continue à le soutenir d'une manière enthousiaste. Et donc, encore une fois, je crois qu'il faudra attendre un petit peu, pas mal d'années peut-être, pour comprendre exactement ces phénomènes-là.
Catherine, moi j'ai vu quand il est rentré dans la salle pour le concours biblique le jour du Yom HaTzmaout, le public, alors bon, ils sont religieux et en plus de ça, ils sont très cultivés d'un point de vue du Tanakh, puisqu'ils sont au concours biblique à la finale, donc c'est des gens, ils ont chanté une chanson qu'on chante que, c'est presque un Tehillim qu'ils ont chanté pour lui. Laisser rentrer le roi qu'on chante que pour les plus grands rabbanim ou pour à la limite.
C'est pour ça que je vous parle de phénomène.
Ils ont dit laisser rentrer le roi avec des phrases de Tehillim.
Je vous racontais le concours du Tanakh, qui est en effet un public qui est un public. Mais c'est pas seulement là, d'accord. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il faut voir également ce qui se passe, si vous voulez, dans le public et dans les réseaux sociaux israéliens. Si vous écoutez certaines chaînes, évidemment, vous avez une image. Mais si vous regardez l'histoire en macro, c'est pas que je justifie encore une fois le fait que Netanyahou soit resté malgré le 7 octobre, etc. Mais ce que je dis, c'est que là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui doit être expliqué par l'histoire. Le fait est, si vous voulez, c'est qu'il continue à être Premier ministre en main de maîtres qui contrôlent totalement Israël. Okay, je ne vois pas aujourd'hui une possibilité de faire tomber Benjamin Netanyahou, ni politiquement, ni au niveau du public, ni des manifestations, etc. La seule chose, ok, il faut attendre 2026, il y aura des élections. Et là, à ce moment-là, on verra bien ce qui va se passer avec Netanyahou.
Catherine Garçon, merci.
Catherine. J'aime bien Catherine aussi. Bien que j'aime beaucoup Catherine Garçon, que je connais aussi très bien. Mais je suis Cathy Vissraor, cher Bernard.
Absolument. Brillante journaliste, elle aussi. Mais non, Cathy, j'ai tellement de plaisir à chaque fois. C'est trop rare.
Le plaisir est partagé.
Merci beaucoup.
À bientôt,
Cathy
Bernard.
Cathy Vissraor à Jérusalem, bonsoir à vous. Et on se retrouve dans un instant pour le forum. On va vous poser les questions. Vous êtes pour ou contre cette histoire d'occuper Gaza?